Radio Django, La Rose des Vents.
18h18, et ce soir dans La Rose des Vents, nous parlerons d'esclavage. Bien que les premières formes d'esclavage ont été abolies en 1848 dans toutes les anciennes colonies françaises, entre 1863 et 1865, après la guerre de sécession aux États-Unis, et seulement en 1980 en Mauritanie, l'exploitation de l'homme par l'homme n'a pas cessé d'exister. D'après l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nul ne sera tenu en esclavage ni servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Alors Daniel, nous sommes donc loin de cette disposition juridique et éthique.
En effet Fabien, d'après le dernier rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail de 2016, près de 40 millions de personnes dans le monde sont victimes d'esclavage, dont un quart d'enfants.
Quelles sont les principales formes d'esclavage répertoriées au jour d'aujourd'hui ?
Le travail forcé et le mariage contraint. D'après les chiffres de ce rapport de l'OIT, le travail forcé, dont le travail sexuel, touche environ 25 millions de personnes et 15 millions de personnes sont concernées par le mariage forcé. Et d'autres formes d'esclavage viennent compléter ce triste tableau du XXIe siècle. Esclavage pour dette, esclavage traditionnel, esclavage domestique.
Mais est-ce que ce fléau se concentre plus dans certaines régions du monde que d'autres ?
Non, l'esclavage moderne se déploie à l'échelle planétaire. Il existe en Asie, en Afrique, comme en Amérique et en Europe. Et pour mieux comprendre les enjeux de cet esclavage moderne, il paraît important de souligner que contrairement à l'époque de la traite transatlantique, la couleur de la peau et l'origine ethnique ne sont plus des critères déterminants pour avoir pour soumettre. Et les esclavagistes aujourd'hui jouent sur la vulnérabilité des personnes, souvent économiquement fragilisées.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mike Hoffman. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes cofondateur de l'association Vivere, qui est née en 1999 à Lausanne. Vivere est un mouvement solidaire de lutte en faveur des droits humains. Votre principale mission consiste à lutter contre la traite des êtres humains et l'impunité des coupables. Vivere a aussi la particularité de soutenir des projets ou des initiatives provenant de la société civile. Alors, dans quelle région du monde Vivere lutte contre la traite des êtres humains, Mike Hoffman ?
Oui, d'abord, merci beaucoup de nous recevoir à votre antenne, qui est toujours aussi fidèle à la mobilisation des auditeurs en faveur de ces causes humanitaires. Ça fait 14 ans que Vivere s'oppose au trafic des êtres humains soumis à l'esclavage moderne. Et nous assistons des victimes de cette forme d'abus en Europe de l'Est, en Ouzbékistan et dans la région du Golfe Persique. Au total, dans 6 pays, et les victimes assistées dans les pays d'exploitation proviennent quant à elles de 27 nationalités.
Mike, par quel biais est-ce que vous êtes informé en fait, de cette mise en esclavage dans certains points du globe ?
Depuis longtemps, il y a diverses agences des Nations Unies qui documentent abondamment les situations nationales et régionales d'esclavage et de trafic. D'ailleurs, si elles agissaient concrètement sur le terrain aussi bien qu'elles publient, eh bien, cette forme de criminalité aurait reculé depuis longtemps. Pour ce qui est des victimes que nous assistons, il y a trois principales sources de contact. Nos associations partenaires dans les pays d'exploitation, les visites dans les prisons où les victimes sont souvent détenues et l'appel direct des victimes qui apprennent nos coordonnées.
Par ce réseau, finalement, quelles sont les principales formes d'esclavage que vous pouvez rencontrer au quotidien, si on peut dire ?
Comme vous l'avez mentionné, l'exploitation sexuelle par la prostitution forcée, le labeur inhumain, la participation forcée à des activités illicites comme le narcotrafic et les gangs de banditisme et la mendicité forcée. Ce sont quatre principales formes d'exploitation.
Pour revenir à l'exploitation sexuelle, Vivere est très actif donc en Moldavie, en Ukraine et en Ouzbékistan, où les femmes sont confrontées donc à l'esclavage sexuel ou au travail forcé. Mais comment est-ce que vous arrivez à infiltrer les réseaux signalés et quelle est votre marge de manœuvre ?
Alors, proprement parler, on n'infiltre pas les réseaux, parce que ces réseaux sont constitués de criminels extrêmement dangereux. Et pour parler simple, disons que ce sont des tueurs sans scrupules. Voilà. Nous, on ne cherche pas à se substituer aux enquêtes de police, ou à l'action des procureurs en infiltrant les réseaux. Ça, c'est leur travail. Le nôtre, c'est d'identifier les victimes et de les exfiltrer de leur lieu d'exploitation et d'incriminer ceux des criminels qui sont repérés publiquement en les assignant devant les tribunaux compétents des pays respectifs.
Mais quelle est votre marge de manœuvre à partir du moment où vous devez les exfiltrer? Donc vous devez quand même remonter certaines filières. Donc je pense qu'il y a des témoins et il y a des personnes qui accusent indirectement.
Tout à fait. Alors si vous voulez, on va assurer le contact avec tous les témoins et les victimes naturellement, que l'on peut rencontrer en dehors des lieux d'exploitation eux-mêmes. Parce que là, il y a, si vous voulez, il y a des gens armés, il y a toutes sortes de gros méchants, quoi, si vous voulez, qui vous repèrent immédiatement et donc qui peuvent vous nuire, voire pire.
Est-ce que sur place, vous avez des partenaires locaux, voire des partenaires en Suisse?
Oui. Dans chacun de ces pays, 6 pays où nous travaillons, nous avons un ou plusieurs partenaires locaux, souvent des avocats et souvent de petites associations militantes et courageuses hein, pour aller vers ce type de travail. Au plan général, l'Organisation internationale de migration est un partenaire très précieux pour nous. Voilà. Et puis en Suisse, donc, nous avons la chance d'avoir 2 organisations suisses qui nous soutiennent financièrement pour permettre à tout ce travail de se déployer. Elles le font depuis 3 ans. Et puis malheureusement, donc, leur aide va s'arrêter en octobre prochain. Donc on est très en souci pour trouver des ressources en relais.
Et est-ce que vous arrivez à soutenir financièrement les acteurs locaux?
La plupart travaillent comme nous, c'est-à-dire sont des bénévoles ou bien sont déjà rémunérés par leur propre organisation ou par des subventions qu'ils trouvent localement. Donc en fait, on a très très, pour ainsi dire, pas du tout de frais d'émolument, si vous voulez, de gens, à part pour les avocats.
Quelles sont vos actions sur le terrain pour lutter contre l'esclavage sexuel et accompagner les victimes?
Oui. En résumé, 3 buts. Hein. Le premier, c'est de renforcer les sanctions contre les commanditaires et les complices du trafic. Et ça, ça se traduit concrètement qu'à ce jour, on a fait s'activer une 50aine de procès dans les pays d'origine des criminels. Et je dois dire que la plupart du temps, nous gagnons ces procès. Donc ils sont condamnés par les lois de leur pays. Le deuxième but, c'est de protéger et d'assister les victimes du trafic, aussi bien dans les pays où elles sont exploitées qu'une fois rentrées chez elles. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts au niveau psychologique, de problèmes de santé, de choses comme ça, où il ne suffit pas de la ramener dans son pays pour qu'elle soit tirée d'affaire.
Donc il y a tout un accompagnement en fait, qui permet à ces personnes de se
retrouver. Oui, justement avec nos partenaires dans les pays d'origine. Voilà. Et puis le troisième but, c'est de renforcer les activités préventives. Évidemment, la prévention, c'est capital. Notamment par l'éducation et la sensibilisation des jeunes qui sont potentiellement visés par le trafic.
Finalement, est-ce qu'il est juste de penser qu'il existe une corrélation entre les phénomènes migratoires et l'exploitation sexuelle?
Tout à fait, tout à fait. Alors, pour prendre un exemple concret parmi notre expérience, on cite souvent l'Ouzbékistan, qui est un pays où il y a un très fort taux de chômage et une politique de rémunération minimaliste. Voilà. Donc, vous avez des milliers d'Ouzbeks qui cherchent à migrer en recherche d'emploi.
Voilà. Notamment des femmes, puisque c'est plutôt elles.
De plus en plus d'hommes aussi sont concernés par, sont happés, disons, par les trafiquants.
Voilà. Mais l'exploitation n'est pas la même. Je pense que les hommes ne sont pas soumis à une forme d'exploitation sexuelle, comme peuvent l'être les femmes.
Selon notre expérience, c'est souvent le labeur forcé. Voilà. Mais il peut arriver, notamment pour des jeunes gens, si vous voulez, d'être également attirés de force dans le commerce sexuel. Illégal. Voilà. Ce qui est évident aussi, c'est que plusieurs des pays d'exploitation connaissent un essor économique assez singulier. Voilà. Ces richesses-là excitent la convoitise des trafiquants. Voilà, là, ils en font une destination de prédilection. Et par ailleurs, ces mêmes pays servent un peu de miroir aux alouettes, voilà, pour bon nombre de candidats à la migration.
Mais c'est un peu comme le mythe de l'Europe.
Excusez-moi.
C'est un petit peu comme le mythe de l'Europe, en fait, qu'on peut connaître dans certains pays.
Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et puis, voilà l'essentiel de ce que je voulais répondre.
Quels sont les dangers potentiels rencontrés sur le terrain?
Alors, dans ce type d'activité, nous faisons face à 2 dangers permanents. C'est pas aléatoire. Le premier, c'est évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'être confronté avec les mafias qui tirent des profits exorbitants de cet esclavage, qui sont des gens sans foi ni loi, et je le répète, qui sont des tueurs. Voilà. Et le deuxième, disons, front de danger, de risque, c'est de susciter la vexation ou le courroux des autorités nationales là où l'exploitation est pratiquée. Voilà. Parce que toutes s'évertuent à se présenter au monde comme irréprochables à cet égard. Du trafic chez moi, mais ça n'existe pas, c'est ailleurs. Ça concerne d'autres communautés, d'autres nationalités, etc.
Donc il y a une langue de bois dans ces pays, justement, par rapport à tout ce qui relève du trafic.
C'est oui, ça. Langue de bois, c'est un mot, disons, assez gentil.
Aussi présent en Mauritanie, Vivere lutte contre l'esclavage traditionnel. Dans quelle mesure l'esclavage, en fait, reste ancré en Mauritanie, malgré plusieurs dispositions juridiques, pour justement mettre un stop à cette exploitation de l'homme par l'homme?
Vous avez raison de rappeler, parce que en termes juridiques, dans ce pays, l'esclavage a été aboli en 1981. Depuis 2007, il est considéré comme une infraction pénale. Depuis 2012, l'esclavage est désigné comme un crime contre l'humanité en vertu de la réforme constitutionnelle que la Mauritanie avait faite. Et en août 2015, il y a même encore eu une nouvelle loi anti-esclavagiste qui durcit théoriquement, si vous voulez, les peines contre ceux qui la pratiquent. Cependant, nous, à Vivere, chaque mois, on reçoit de nos partenaires en Mauritanie des alertes citent les multiples exactions encore liées aux pratiques de l'esclavage.
Est-ce que Vivere pense rester actif en Mauritanie malgré l'expulsion de Tiphaine Goss, journaliste, et Marie Fornet, donc chercheuse en droit de l'homme, qui ont été donc expulsées en avril 2017, et elles conduisaient des recherches justement sur l'esclavage et le racisme en Mauritanie?
Oui, c'est vraiment malheureux pour ces témoins. Mais nous-mêmes, enfin moi-même, j'ai été victime d'une expulsion en Mauritanie, manu militari, en août 2015. Voilà. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de continuer de soutenir nos partenaires sur place, et notamment l'IRA, dont votre antenne avait reçu un représentant il y a deux ans en arrière.
Les dernières images d'esclaves vendus aux enchères en Libye ont alerté l'opinion publique. Que pensez-vous du discours de Cécile Coudriou, vice-présidente d'Amnesty International France, qui dénonce le double discours des États, lesquels dénoncent d'une part l'esclavage, mais l'alimentent par le biais de politiques migratoires?
Oui, tout à fait. En effet, l'opinion a été alertée, sans doute. Mais les dirigeants américains et européens savaient depuis très très longtemps que de telles atrocités étaient pratiquées, non seulement en Libye, mais aussi dans beaucoup d'autres contrées que traversent les réfugiés qui se dirigent vers les pays riches. Voilà. Donc il y a une bonne dose d'hypocrisie dans l'étonnement des chancelleries et des États sur la soi-disant découverte de ce qui se passait en Libye. Maintenant, nous, tout comme Amnesty International, nous pensons que l'esclavage est l'une des conséquences directes et indirectes des phénomènes migratoires.
Absolument. Mais est-ce que vous, quel est le regard, en fait, des États africains, je veux dire, sur cette vente aux enchères d'esclaves? Parce que, quelque part, on a le sentiment qu'ils cautionnent aussi.
Cautionner, ce serait déjà une imputation assez grave. Hein. Enfin, nous, on n'est pas tellement documentés pour se permettre de corroborer ça. Je pense que les États africains sont un petit peu impuissants,
hein,
parce qu'ils ont 1012 problèmes chaotiques et gigantesques à résoudre chez eux, où des nombres de populations encore plus élevés souffrent de ceci ou de cela. Je ne crois pas qu'ils soient indifférents, je ne crois pas qu'ils soient forcément complices. Voilà. Peut-être ici et là quelques fonctionnaires, mais politiquement, non, je ne pense pas qu'ils puissent tolérer ça en restant tranquilles.
Qu'est-ce qui explique au XXIe siècle cet essor florissant du trafic d'êtres humains et le fait que de plus en plus de personnes soient vulnérables et économiquement fragilisées?
Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui facilite, entre guillemets, si vous voulez, l'intensification de ce trafic et de cette exploitation, c'est l'impunité dans laquelle prospèrent les mafias, les trafiquants et les passeurs.
En quoi est-ce que l'esclavage moderne est aujourd'hui devenu un vrai business?
Un seul chiffre, les Nations Unies estiment à 28 milliards de dollars, si vous voulez, le volume d'argent qui est brassé dans le cadre du trafic des êtres humains. Donc ça excite les convoitises, évidemment, des mafias.
Et les chiffres concernant l'exploitation sexuelle aussi sont faramineux. Je veux dire, il y a des choses...
Tout à fait, c'est une proportion, c'est estimé, parce que voilà, oui. C'est difficile d'avoir une réalité, à peu près à la moitié. La moitié de ces 28 milliards, si vous voulez, serait le fruit de l'exploitation, de la prostitution forcée.
Pour conclure, comment anticiper et prévenir le trafic d'êtres humains ?
Alors, fort de nos 14 années d'expérience, je dirais par 4 biais, assainir les forces de police et les tribunaux en y éliminant la corruption et le trafic d'influence. Deuxièmement, doter les forces de police et les procureurs des moyens nécessaires à investiguer et à juguler les mafias. Fermer les officines de placement complices des mafias, et elles fleurissent en Mauritanie, en Éthiopie, dans plusieurs autres pays que nous connaissons. Et enfin, bien sûr, prévenir la jeunesse, pas seulement la jeunesse, les chômeurs et les parents seuls, particulièrement dans les pays à forte tendance migratoire.
Merci Mike Hoffman pour vos explications sur ce sujet complexe, sur une réalité de notre temps. Non, l'esclavage n'est pas une relique de l'histoire, c'est ce qu'on pourra quand même retenir de ce soir. Malgré certains décrets prononcés à la fin du 19e siècle, l'exploitation de l'homme par l'homme reste une constante. L'absence de toute référence à l'esclavage moderne dans la législation internationale ne permet pas de mesurer son ampleur. De plus, les victimes restent dans l'ombre et craignent de dénoncer leurs oppresseurs. Les principales victimes sont des femmes, Daniel.
En effet, Fabien. 71% en fait, des populations touchées par l'esclavage sont des femmes, dont des mineurs, et elles sont pour la plupart victimes d'exploitation sexuelle.
Oui, Viveri refuse de fermer les yeux sur ces atrocités et continue d'agir discrètement, mais sûrement, grâce à différents partenaires en Suisse et dans les pays concernés. Viveri est d'ailleurs invité ce mercredi 7 février, soit demain, pour une conférence sur l'esclavage moderne avec Tiffaine Goss, journaliste, et Nicolas Boissé, collaborateur à la Fondation Hirondelle, un événement organisé par la rédaction du magazine 7 Info, au Café littéraire de Vevey, qui est Perdonnet, 33 à 18h, c'est donc demain. Merci beaucoup Mike Hoffman, encore une fois.
Merci à vous, merci infiniment.
Une très bonne soirée à vous, et puis plein succès dans vos actions.
Merci.